Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous et également avec nos invités. Ce sont, on va dire, deux virtuoses de la brique. Peut-être un brin déjanté, on en parlera avec eux tout à l'heure. Il nous prouve surtout depuis quelques semaines qu'on peut avoir plus de 30 ans et de rester passionné, voire totalement mordu, même revendiqué qu'on joue au Lego tous les jours. La première est une costumière dont la créativité ne rencontre aucune limite. Le deuxième est un véritable passionné de tout ce qui on peut entrer d'une certaine manière dans la catégorie jeux, les jeux de société bien sûr, les jeux vidéo, en passant également par les jeux de construction. Ensemble, alors ils sont deux sur ce plateau, je précise, ils ne sont pas venus en couple. Ils ont décidé d'unir leur créativité pour bâtir des édifices incroyables dans une émission plutôt audacieuse sur M6. Bonjour Marine et bonjour Benjamin.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux dans le Buzz Télé. Ce soir, c'est la grande finale de Lego Master sur M6 en première partie de soirée. Vous avez les honneurs du prime time une fois de plus. Vous faites partie des quatre binômes qui participent à cette dernière émission. Je rappelle qu'elle est toujours animée d'ailleurs par Éric Antoine. Ouais. En arrivant à cette émission, et vu le niveau quand même des concurrents, qui est assez élevé, on va en reparler, est-ce que vous vous imaginez tous les deux d'aller aussi loin dans cette aventure dingue ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
On pensait même pas passer les sélections, d'être retenu, ne serait-ce que pour tenter notre chance, c'était déjà une victoire en soi. Chaque épreuve qu'on fait dans cette émission, c'est que du bonus.
Oui, parce qu'en fait, de base, Ben et moi, on ne construit pas énormément de mock, une création propre, personnelle, donc pas un set existant. Et du coup, on a déjà été pris pour les castings, c'était quelque chose. On a fait les castings et là, c'était incroyable parce que c'est aussi la première fois qu'on construisait ensemble.
Et c'est compliqué justement de s'adapter l'un et l'autre, puisque vous étiez tous les deux fans, évidemment, de Lego. Comment on travaille à deux, finalement, et comment on se prépare justement à une finale ?
Ouh, c'est plein de questions en une. Est-ce que c'est difficile ? Un petit peu, c'est surtout inattendu. Je pense que tant qu'on n'essaie pas de construire à plusieurs, à quatre mains ou plus, c'est difficile d'imaginer ce que c'est. C'est vrai que c'est une construction, enfin c'est un exercice qui est un peu solitaire d'habitude de faire des jeux de construction.
Pour moi en tout cas c'est solitaire, ouais. Et du coup ça a été très difficile aussi de dire on est à deux. La préparation pour construire à deux, je ne sais pas si vraiment on avait établi des plans, ça s'est un peu fait naturellement.
Il y a eu une préparation spéciale pour la finale ou pas ?
Pas plus que pour les autres épreuves.
Pas plus, non. C'est vrai que les trois premières émissions donc, auxquelles on vous a suivi dans cette course incroyable.
Le plus dur, si on passe les demi-finales ce soir, ce serait, je pense, pour nous, sujet libre. C'est vraiment ce qui est le plus difficile pour les candidats qui se retrouveront en finale ce soir.
Du moins, c'était le thème l'année dernière. Après, on ne sait pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur de ne pas avoir le cadre imposé d'un thème. Voilà,
c'est la créativité qui doit jouer, le talent d'un duo. Nous sommes en direct sur Figaro Live avec Marine et Benjamin, donc, qui participent, je rappelle, ce soir à la finale, en effet, de Lego Master. Dites-nous tout si vous avez suivi notamment cette émission et quelles ont été les créations qui vous ont le plus subjugué. En attendant, je vous propose de retrouver tout de suite les news médias du jour et c'est avec Nathalie Schuch. Bonjour Nathalie.
Bonjour et bonjour à vous deux.
Bonjour.
Tradition oblige, on démarre ces news médias, chers invités, avec les audiences télé de la veille.
Alors oui Philippe, TF1 est arrivé en tête des audiences avec la suite de la saison 6 de Sam. Les deux inédits de la série portée par Natacha Lindinger ont été suivis par près de 4 millions de fidèles quand même, soit une part d'audience de 19,5%. À la deuxième marche du podium, France 2, qui lançait la nouveauté Manipulation, la série de thrillers avec Marine Delterme a réuni une moyenne de près de 3 millions de téléspectateurs, soit 14,1% de part d'audience. Et M6 se place à la troisième position en mode patron incognito. L'inédit diffusé hier soir sur l'entreprise Burgers Papa a intéressé 2,3 millions de téléspectateurs. Et puis enfin, un bon score pour Stéphane Bern, comme toujours, sur France 3, avec l'inédit Secret d'histoire consacré à Molière, dont on fête le 400e anniversaire cette année. Le magazine d'histoire a captivé 1 800 000 téléspectateurs.
Et les chiffres d'audience, Lego Masters, c'est à peu près 2 millions de téléspectateurs. Vous êtes attentif aux chiffres d'audience, j'imagine, au-delà de la popularité que vous avez pu acquérir à travers ce programme?
Oui, c'est en moyenne, je crois, 2 millions par épisode. Je n'arrive pas à me rendre compte, en fait, que du coup, on a été vu par 2 millions de personnes en direct, sans compter les replays. Mais...
C'est, la médiamétrie, ça fait partie des informations comme ça qu'on découvre quand on découvre la télévision.
On rappelle que là, c'est une mesure, en effet, qui mesure tous les jours, en effet, les audiences de la télévision en France.
C'est hyper intéressant de voir comment est-ce qu'on s'intéresse à qui regarde, quel âge a le spectateur, est-ce que c'est la maman, est-ce que c'est hyper intéressant, et de savoir que les gens qui nous suivent sont plutôt d'un profil familial, que des enfants nous regardent aussi, c'est hyper encourageant. On se dit, on va essayer de montrer un petit peu l'exemple et apporter un peu de joie dans le contexte actuel.
Transgénérationnel, Lego, pour ça.
Vraiment.
On poursuit ces news médias avec une ancienne du 20h de TF1 qui, a priori, n'a pas totalement tourné la page ni du JT ni de la télé.
Oui, voilà, Philippe. Claire Chazal a formulé ses vœux auprès du média belge Télépro. La présentatrice de Passage des Arts sur France 2 a donné la liste des émissions qu'elle rêverait présenter, et notamment l'émission littéraire La Grande Librairie sur France 5. Alors, elle a bien précisé qu'elle n'était
pas piquer sa place, c'est ça ?
Voilà, elle a bien précisé qu'elle n'était pas candidate et ne cherchait absolument pas à prendre la place de François Bunel, qui fait très bien le job. Donc, le voilà donc rassuré. Claire Chazal, en effet, Philippe a également affirmé son amour, a réitéré son amour pour l'exercice du 20h. Ça reste intact pour elle, c'est sa grande passion. Alors, en attendant, on la retrouvera à la présentation du Grand Échiquier spécial Molière le 21 janvier prochain sur France 3.
Tous les deux, vous avez des émissions que vous aimeriez présenter ou des jeux à la télé, par exemple, maintenant que vous êtes frottés au petit écran?
Je m'étais déjà posé la question en tant que candidat. J'aurais adoré faire Qui veut gagner des millions à l'époque. Ah. Je ne sais pas pourquoi, c'est une émission qui a bien son enfance. Maintenant, ce serait plutôt question pour un champion. C'est ça que je me rends compte que j'ai passé 30
Donc,
ans.
Très jeu quand même.
Très jeu, toujours jeu. Il faut que ce soit du jeu. Et présenter un jeu, j'adorerais présenter Motus pour la blague. Je trouve que c'est une émission qui a beaucoup d'humour.
Donc, c'est la télévision, un candidat potentiel sur notre plateau. Et vous, Marine ?
Moi, pour ma part, je connais très peu d'émissions parce que je n'ai pas de télévision chez moi.
Non. Voilà. Encore des Français qui n'ont pas leur télévision chez eux.
Netflix, l'ordinateur suffisent. Et
puis Buzz TV, on trouve du contenu aussi. Non, il faut faire de l'autopromotion. Non,
après,
on trouve de tout maintenant.
Mais regardez Koh-Lanta, il paraît.
Exactement. En fait, si, je suis quand même une émission qui me plaît beaucoup, c'est Koh-Lanta. Donc, je la suis en direct, mais sur l'ordinateur. Et en fait, c'est pour le côté, justement, challenge et dépassement de soi. Donc, de nouveau, dans le jeu, dans la compétition.
L'aventure.
Voilà, pour aller dépasser ses limites. Maintenant, est-ce que je pourrais un jour poser ma candidature pour Koh-Lanta? J'aimerais bien, vraiment.
Et je crois que les inscriptions étaient ouvertes, d'ailleurs, pour la prochaine saison.
J'aimerais bien.
Mais, oui et non. Pour le côté, vraiment, dépassement de soi, oui. Après, quand je regarde, j'ai une peau fragile qui ne supporte pas le soleil. Je ne sais pas nager. J'ai peur de l'eau. J'ai peur des araignées. Et aussi, une de mes plus grandes peurs, c'est la peur d'avoir faim et de ne pas avoir de nourriture à côté. Je suis une grosse mangeuse. Oui. C'est vraiment...
Rester une spectatrice.
Du coup, voilà, je veux bien s'il y avait qu'un ou deux choses pour dépasser ses limites, oui, mais là, ça fait quand même beaucoup de points à travailler. Du moins, ma candidature ne sera pas pour tout de suite. Quoi.
D'accord, c'est entendu. Voilà. On poursuit ces infomédias avec le retour d'un nouveau talk show sur C8.
Oui, l'année débute bien pour Mathieu Delormeau. Hier soir, sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna a annoncé que le chroniqueur et producteur allait prendre du grade et passer de chroniqueur à présentateur. Mathieu Delormeau va en effet faire son retour aux manettes de TPMP People, une émission qu'il a présentée 2 ans, de 2018 à 2020, qui devrait donc être programmée prochainement le vendredi soir, a promis Cyril Hanouna.
Vous êtes des clients justement de Cyril Hanouna, animateur de TPMP sur C8 ?
Personnellement, pas trop.
Pas trop.
Mais c'est une des premiers médias, enfin, une des premières émissions vraiment grand public qui parlait justement de médiamétrie, qui comparait les scores. Et c'est à l'époque où ça commençait, c'est comme ça que j'avais un peu découvert cette émission. Maintenant, le côté un petit peu people m'intéresse un petit peu moins personnellement.
Bon, vous, Marine, a priori, vous ne regardez pas du tout la télé, sauf sur l'ordinateur et Koh-Lanta, on a bien compris.
Voilà.
Mais pas du tout. Et sur Netflix, vous regardez quoi, par exemple ? Des séries ? Des documentaires ?
C'est des séries, beaucoup de séries.
À propos de jeux d'échecs.
Ah.
Les gens veulent
aussi,
savoir ce que c'était la doublure du jeu de la dame.
Le jeu de la dame, qui a fait un carton
d'ailleurs. Ouais. Super série.
Très chouette série, moi j'ai beaucoup apprécié.
C'est vrai. Et vous étiez identifié au personnage? Si je repousse la question de Benjamin.
Moi, j'ai vu la série un peu tardivement, mais dès qu'elle est sortie, je commençais à recevoir des messages en disant « Marine, il faut que tu regardes la série. J'ai eu l'impression de t'avoir vue. » Et bah, du coup, ça m'a intriguée. J'ai regardé et bah, je le prends comme un compliment. Mais oui, effectivement, on compare beaucoup à Bess Harmon du jeu de la dame.
C'est bien Marine qu'on a sur ce plateau, hein, qui est dans Lego Star et pas le jeu de la dame. Merci Nathalie pour CNews Media. Et place tout de suite à l'interview du Buzz Télé avec Marine et Benjamin. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'heure de la finale à sonner. C'est la dernière émission en effet, de la deuxième saison hein, déjà de Lego Master. Ce mardi soir en prime time, vous allez affronter trois autres binômes hein, qui sont toujours en compétition. Quels sont les défis que vous allez devoir relever ce soir?
Eh bien, si on s'en fie au teaser qu'on peut voir jusqu'à présent, en demi-finale, on va devoir construire sur une branche d'un arbre géant, d'un arbre magique. Et ce qui est très original, c'est le support, les dimensions qu'on nous propose. Construire en longueur, construire en équilibre, c'est des choses qu'on n'a encore jamais fait et jamais vues. C'est une épreuve très originale.
Qui doit s'intégrer donc à un arbre qui existe.
Tout à fait. On va pouvoir construire chacun sur notre branche et en reconstituer l'arbre ensemble après. Il y a un gros niveau pour cette demi-finale et j'espère que notre créativité et les idées qu'on peut bousculer comme ça vont nous porter chance comme ça a été le cas jusqu'à présent.
Ouais, vous n'avez jamais été déstabilisés tous les deux, Marine? Non.
La plus déstabilisante a été la première épreuve, en fait, les aventuriers du monde perdu. Parce que du coup, on a tellement bloqué sur une mécanisation qui n'était pas à notre portée que sur une épreuve de 17 heures, à 14 heures d'épreuve, on avait une petite forêt, une prairie verte, toute bucolique, et qu'on avait vendu au jury une belle jungle trop piquante, bien fournie, bien dangereuse.
J'ai l'impression. À la fin, on était en PLS.
On a presque fait une épreuve de 17 heures en 3 heures au final.
Ouais, c'était vraiment l'épreuve la plus compliquée. Techniquement, on trouve toujours des petites astuces pour s'en sortir, mais y a un gros, gros niveau. Et là, je suis vraiment content qu'on fasse cette demi-finale avec ces binômes-là.
Nathalie, peut-être une réaction aux questions des internautes qui nous suivent?
Oui, sur Twitter, on nous demande, mais je pense que la réponse sera oui, avez-vous regardé la première saison de Lego Masters?
Oui.
Oui.
Affirmatif.
Et c'est ça qui a déclenché chez vous, on imagine?
Quand j'ai vu déjà le casting pour la première saison, j'étais intriguée, mais j'avais d'abord envie de voir ce que ça rend à l'écran, comment ce qui était présenté, comment allait se dérouler la version française avant de pouvoir m'y inscrire. Et quand j'ai vu la saison 1, je me suis dit, c'est bon, on va s'inscrire pour la saison 2.
On rappelle que chacune de vos constructions sont soumises hein, à deux Brick Masters, hein, un peu des grands chefs qui vous surveillent et qui vous jugent. Georges et Paulina, quand leur avis arrive, c'est quoi? C'est le moment le plus redoutable de l'émission?
Oui.
Pour Marine, oui. J'ai vite compris que derrière leur avis, l'expression de leur avis, il y a surtout beaucoup de bienveillance. On a toujours cherché à nous apporter des conseils, et à nous, mais comme à tous les binômes, souvent avec humour, avec décalage. C'est des choses qui sont un peu parfois coupées au montage, ça fait partie du jeu de la télévision. Mais je vois parfois sur Twitter des gens qui le vivent pas bien. Je comprends que c'est ce que l'émission montre, c'est ce qui reste au montage. Mais soyez rassurés, vraiment, c'est des gens formidables et ils nous ont apporté beaucoup de soutien aussi.
Marine.
Ils passent plusieurs fois pendant toutes les constructions et à chaque fois qu'on les voit au loin, on sait qu'ils vont arriver. Moi, du coup, c'est bon, c'est la panique. Je commence à douter de tout. Je fais non, notre sujet n'est pas bon, on n'a pas assez avancé. Et en fait, bon, il y a des fois, effectivement, c'était le cas, mais d'autres fois aussi, tout se passait très bien. Et je sais pas, c'était à chaque fois une panique pour pas grand chose, mais ouais. David.
On se rend ses peurs et puis on apprend aussi à gérer le temps. C'est vrai que souvent on tendait un peu le bâton pour se faire battre à quelques heures de la fin. On avait avancé tranquillement et on nous disait oui, enfin, il y a quand même un chrono à respecter. Ce serait bien que vous ayez une construction terminée avant la fin.
Parce qu'on ne voit pas à l'écran, en effet, le tournage c'est près de 24 heures hein, pour certaines séquences, pour certaines épreuves.
La finale de la saison va durer 24 heures, tout à fait.
24 heures, lorsqu'on ne voit pas à l'écran. Donc c'est finalement assez difficilement supportable, cette pression qui dure.
C'est long.
Comment on le vit?
C'est le rythme du tournage est très très long. Là, pour déjà avoir fini 3 émissions, c'est des semaines de tournage, c'est intense. Bon, en tout cas, la fatigue est bien présente.
Comment on fait, Benjamin, pour tenir dans la durée? Prendre des vitamines, un bon jus d'orange le matin,
on boit beaucoup d'eau. On rigole avec Eric Antoine et les autres candidats.
On décompresse le soir à l'hôtel, tous ensemble.
C'est vrai qu'il y avait un vrai esprit de camaraderie qui était très, très facilitateur, je pense, pour cette épreuve-là. Ça a duré plusieurs semaines, ça aurait pu être douloureux, mais ça s'est bien passé. Et paradoxalement, l'épreuve la plus difficile, je pense que tu es d'accord avec moi, ça n'a pas été la plus longue, mais les 6 heures pour la tour qui tremble et qui tombe, parce que c'était un sprint et un marathon à la fois. Et c'était vraiment, en tout cas, physiquement la plus éprouvante. Oui.
La double peine.
Ouais.
Face à vous, les trois autres duos, hein, leur nom, les meilleurs potes, les métalleux suisses et les parents cool.
Tout un programme.
Ouais, ceux qui vous effraient le plus, dont il faut absolument vous méfier.
Personnellement, je me méfie des parents cool parce que c'est un peu la
contrairement
force...
à leur nom, donc.
Ouais, c'est un peu la force tranquille. On les a pas forcément vus venir. Ils ont eu un niveau. Ils se sont retrouvés parfois à bottom two. Ils ont parfois pas eu de chance, mais ils ont de bonnes idées. Ils communiquent bien. Et c'est le fait qu'on les voit pas venir qui moi me fait me méfier d'eux. Et en plus, ils sont hyper attachants, donc.
Oui, il y a les métalleux suisses parce que tout simplement, en fait, ils sont techniquement, ils sont vraiment forts et ils ont une telle entente que des fois, d'un simple regard, ils se comprennent. Ils ont même pas besoin de se parler pour savoir quoi faire, comment avancer. Et c'est impressionnant. En tout cas, ils ont une espèce de d'alchimie. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je trouve
intuitif.
Pas mon mot.
Ça se fait naturellement chez eux. Bon, les meilleurs potes, c'est aussi nos meilleurs potes. S'ils nous explosent, c'est pas grave, ça fait partie du jeu.
Nathalie, une question ou une réaction?
Oui, justement, Clara réagit sur les moments de panique. Est-ce que justement, quand Eric Antoine vient vous voir pour vous taquiner alors que vous êtes dans le rush, est-ce que vous avez envie de l'envoyer balader parfois?
Il faut évidemment, mais c'est le jeu. Après, ça fait partie du jeu aussi. Et c'est... Mais à la fois, des fois, on se dit non, pas maintenant, on est trop occupé et on n'a pas le temps. Et puis au final, ça apporte toujours du bon aussi parce que même si on est un peu en panique avec le temps ou autre, c'est toujours un moment où on est remotivé après ou même juste ça se libère l'esprit 5 minutes et ça fait du bien aussi. Et finalement, ça n'a jamais été handicapant.
Vous avez réussi à garder votre bonne humeur, vous n'aviez pas envie de lui dire « va-t'en ».
Non, mais aussi, des fois, il est vraiment réconfortant. Plusieurs fois, il est venu, par exemple, m'apporter un peu de nourriture, de chocolat ou autre, parce que j'étais en panique.
C'est vrai que t'es un peu pâle, parfois.
Oui.
C'est sympa de la part de
Ouais, c'est dur de dire non à quelqu'un comme Eric-Antoine.
Ça ne se voit pas non plus, mais le montage réalisé par la production de cette émission, il est titanesque. Hein. Ouais. On parlait du nombre d'heures et de séquences. Est-ce que les séquences, est-ce que vous voyez au final qui a été produit, donc diffusé pour les téléspectateurs, est le reflet de ce que vous avez vraiment vécu ?
Non, je pense qu'on voit, j'allais dire la partie immergée de l'iceberg, mais ce n'est même pas vrai. On voit vraiment une goutte d'un petit océan quand même, parce que...
Est-ce que ça reflète bien la réalité de ce que vous avez vécu dans cette compétition ?
Ça, c'est une question hyper intéressante. Ça reflète...
Majoritairement, oui, quand même.
Ça reflète bien les épreuves.
Fidèle.
Ça reflète bien les épreuves. Ça donne aussi la part belle aux constructions. C'est vrai que, notamment sur Twitter, on voyait après la saison 1 que les gens disaient on ne voit pas assez les briques, on ne voit pas assez les constructions. Là, je trouve que c'est mieux cette saison 2. Maintenant, tout l'aspect humain, tous les moments partagés, tout ça, bah, nous, on l'a vécu et heureusement, ça restera gravé dans nos disques durs à nous, mais ce ne sera pas diffusé tel quel. Ce n'est pas très grave. Ça fait aussi partie de ce que nous, on peut garder le petit plus qu'on a. L'émission diffusée rend plutôt hommage à l'aventure qu'on vit.
Le travail que vous avez réalisé. Ouais.
Parce que justement, je rebondis, ce que Justin nous demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a agacé dans le déroulé de l'émission? Est-ce que vous trouvez que c'est scénarisé ou qu'est-ce qui vous a le plus agacé en fait dans l'expérience?
Alors non, moi, je n'ai pas senti à un seul moment que c'était scénarisé. C'est vraiment, on est dans le jeu et si à un moment donné, on foire, c'est comme ça. À aucun moment donné, je n'ai senti ça.
Ce qui pourrait être frustrant, c'est cette chose que je comprends aussi encore une fois, parce que les téléspectateurs maintenant s'expriment aussi beaucoup sur les réseaux et c'est cool parce que ça fait vivre l'épreuve, ça fait vivre l'aventure en deux temps. C'est nous, on la regarde le soir même et le lendemain, on en débrief avec les gens sur des réseaux et autres. C'est très très cool. Je comprends les gens qui disent que parfois on manque d'explications. C'est-à-dire que nous, on a des dizaines de minutes de débrief avec les jurys justement, avec les autres candidats aussi, avec la production. Et tout ça, alors bon, forcément, ce qui est avec la production, c'est cuté. Ce qui est avec les candidats, on en voit très très peu. Les jurys, on en garde 30 secondes sur 10, 12, 15 minutes. Il y a des gens qui disent, mais je comprends pas pourquoi cette décision. Moi, c'était pas, si j'avais été à la place du jury, j'aurais pas pris cette décision. Je pense que c'est pour les spectateurs qui doivent avoir parfois un petit peu de frustration, qui aimeraient comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière une décision.
Ouais. Ouais.
Du trop peu.
Mais
c'est
le
pas
problème,
assez parfois.
On peut pas tout faire rentrer en 1h30 d'émission.
Ouais.
Il faut faire des choix.
C'est clair, il y a quelques règles sur les horaires à respecter et les diffusions pour M6. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a évidemment plusieurs noms pour les groupes. Hein. Vous vous appelez les rétros de la brique. Ça sort d'où cette idée, les rétros de la brique?
Je pense que le style vestimentaire plutôt marqué
de Marine
ouais, a aidé. C'est vrai que dans mes choix de passion...
Donc c'est Marine qui a choisi cette appellation, si j'ai bien compris.
C'est la production qui nous propose ouais. Et nous nomme un petit peu comme ça.
Pendant le casting.
Ouais, celui-ci est arrivé assez tard, a priori. Je crois qu'on avait un nom provisoire un peu différent.
Oui.
Mais du coup,
à cause de moi, il a quand même eu des bretelles à la première émission. Il en était ravi.
Ouais, c'est vrai qu'ils auraient bien aimé.
Vous avez abandonné sur ce plateau, si j'ai
bien. Ouais, je les ai complètement abandonnés. Ouais. On aurait bien aimé.
On a essayé de vous relooker, quoi.
Ouais, nous proposer d'être les Peaky Blinders du Lego, etc. Ouais. Mais c'est pas moi, donc je leur ai dit, bon, je veux bien mettre des bretelles une fois pour faire plaisir. Si jamais je vais en demi-finale ou en finale, et puis en fait, ils m'ont mis émission 1, je dis, bon, allez, c'est pas grave, ça part comme ça. Mais non, c'est plutôt dans nos passions. J'aime bien les jeux rétro, j'aime bien des choses qui sont un peu plus anciennes, donc bon, moi ça me dérange pas qu'on soit comme ça. Tant qu'on n'est pas les réacs de la brique, ça me dérange pas.
Oui, parce que Julie justement demandait, Marine, vous habillez vraiment dans la vie, du coup on en a la preuve, dans la vraie vie vous habillez vintage.
Oui, c'est ma garde-robe qu'on voit dans l'émission. Moi, je n'ai pas été relookée par le styliste, je vais montrer ma garde-robe et il m'a dit, moi je verrais bien cette tenue-là pour le premier prime, cette deuxième, enfin voilà. Mais donc non, moi c'est ma garde-robe habituelle.
C'est pour de vrai.
Voilà.
Et vous, Benjamin?
C'est plus ce qu'on voit sur les deux dernières émissions. Ouais, c'est un peu plus moi déjà, avec des baskets.
Comment vous êtes tombés dans cette aventure tous les deux? Vous êtes retrouvés au casting. Comment on arrive à postuler à ce type de... Parce qu'il faut vraiment être un fou de Lego quand même.
Ouais, il faut aimer
ça. Et Ben,
ça
fait longtemps que les candidatures sont ouvertes. T'as pas envie qu'on envoie une petite vidéo comme ça?
Ça s'est passé exactement comme ça.
Donc vous vous connaissiez?
On se connaissait, on savait qu'on avait cette passion commune et on avait plutôt gardé le contact autour du jeu de société, justement, plutôt qu'autour de la brique, parce qu'encore une fois, quand on construit, c'est chacun de notre côté, c'est un peu comme ça que ça a été conçu. Mais en fait, ça m'a intéressé. Ce qui m'a dédramatisé un petit peu, on a évoqué un tout petit peu le sujet, c'est la saison 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être adulte et jouer au Lego, c'est pas forcément facile à dire au boulot ou de plus en plus, je trouve, mais il y a 5-10 ans, j'imagine mal un cadre posé, dire à ses collègues...
Un entretien d'embauche est peut-être un peu gênant.
Voilà, vos passions, les Lego. Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent franco comme ça. Mais la première saison, je trouve qu'elle a quand même montré qu'on pouvait le faire en bienveillance. On peut le faire sans être le gars qui sort pas de sa cave, etc. Donc ça, c'est rassurant. Marine est rassurante aussi quand elle me voit, elle me dit « Viens, on essaie. » Et moi, je suis compétitrice, mais il faut qu'on voit si ça marche, il faut qu'on voit aussi ce qu'on vaut. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas.
C'est cette passion qui est plutôt solitaire au départ, hein, comme la plupart des jeux de construction. Est-ce qu'elle est vécue différemment quand vous êtes à deux, finalement, vous retrouvez à partager ce même plaisir? C'est pas le même plaisir, j'imagine.
C'est pas le même plaisir, c'est pas les constructions qu'on fait à la maison non plus. Parce qu'il y a un choix de pièces qui est énorme, il y a du temps, il y a des propositions aussi. L'arbre qu'on va faire ce soir en demi-finale, j'aurais jamais fait ça dans ma chambre, quoi.
Bah moi non plus, en fait. C'est vraiment quelque chose... tout ce qu'on a proposé jusque-là, c'est vraiment des constructions qui... Parce qu'on est à deux. Aussi bien, je pense, Ben de son côté que moi de mon côté, on n'aurait jamais fait tout ce qu'on a fait là. Et au niveau de la construction, on a toujours réussi à se répartir les tâches parce qu'on ne peut pas être à quatre mains...
Chacun a un peu son rôle, c'est ça, d'une certaine manière.
On ne peut pas être à quatre mains sur un même petit truc. Donc, en fait, on se séparait les tâches assez naturellement aussi.
Par exemple, un exemple qui fait quoi finalement dans la construction?
Dès qu'il y avait un visage ou une expression à donner, c'était plus souvent moi qui prenais cet aspect-là, parce qu'il y a ce côté un petit peu peut-être dessin ou expression qui m'allait bien, et puis ça ne me faisait pas peur. C'est, disons qu'au pire, je me loupe et puis je recommence, c'est pas grave. Alors que Marine était moins à l'aise avec ça, alors que ce soit la structure solide, ça tu gérais direct. Ouais. Et puis à l'inverse, à l'opposé, les petites finitions, les détails, les matières, les textures, on retrouve la couturière qui s'exprime, quoi. Donc elle fait le gros œuvre et les finitions, et puis moi j'essaie de donner un peu de vie à tout ça.
Vous le vivez comme ça, Marine?
Oui, c'est un peu ça.
Comment est née cette passion du jeu? C'est votre famille? C'est, comme disent certains, l'atavisme familial, ça se transmet? Ou c'est un hasard de la vie? On vous a acheté tout petit déjà des vos premiers Lego?
Toi, t'as le contre-exemple parfait.
Non, moi, en fait, petite, j'ai joué un peu à tout. Et c'est plus mon frère qui recevait les 7 Lego. Nous, on avait... je jouais avec les Lego, mais en vrac, donc pas les boîtes avec les instructions. J'ai quand même beaucoup joué au Lego, mais en grandissant, ça s'est arrêté.
Comment c'est revenu alors?
Ben, c'est, il y a, 7 ans, lors d'un voyage à Copenhague. J'ai découvert...
Et on rappelle que Lego, c'est une construction familiale danoise.
Oui. Et là, je découvre, en plein milieu du centre-ville, un magasin Lego. Je suis étonnée, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Un magasin, il n'y a que du Lego. Et du coup, intriguée, je vais voir. Et là, je vois l'évolution qu'il y a eu par rapport à quand j'étais petite, avec les petites pièces un peu plus classiques. Et je vois tout ce qu'on fait. Et j'étais émerveillée. Et je crois que tous les jours de cette semaine de voyage à Copenhague, j'ai tenu à passer dans le magasin, tellement je m'y sentais bien. Et c'est de là qu'après, j'ai eu ma première boîte de Lego adulte, si on peut appeler ça comme ça. Et ça, l'addiction a recommencé. Hein.
Et vous, Benjamin, vous étiez tombé dans un Lego Store petit aussi
Heureusement, à l'époque, il n'y a pas de Lego Store pour mes parents. Ça leur a facilité la vie.
Je crois qu'il y en a 800 dans le monde aujourd'hui, dont 300 en Chine.
Rien qu'en Chine, c'est un truc de fou. Et il y en a de plus en plus en France, donc rapprochez-vous de vos magasins locaux, ça fait toujours plaisir. n'allez pas traverser la planète pour trouver un magasin, rassurez-vous. Et moi, je suis vraiment tombé dans les briques quand j'étais tout petit. C'est un des premiers jeux que j'ai eu, je pense.
Et via l'entourage, donc.
C'est
famille.
Je pense que mes parents trouvaient que c'était un jeu créatif et que ça devait aussi me permettre d'éveiller, j'imagine, certaines compétences. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des parents, mais c'est un jeu qui rassure, je pense, parce que ça se transmet de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. Là, maintenant, on voit sortir des magasins des gens qui transmettent ça depuis 3 générations. C'est hyper, hyper touchant, je trouve. Et c'était un rêve de gosse pour moi d'en faire peut-être un jour un métier. Alors, faire le concours de Lego Master diffusé à la télé, c'est énorme.
Et si on rêve un peu, ça pourrait devenir votre métier. On voit qu'il y a un second marché, hein, notamment du business qui s'est développé autour de l'occasion, des collections entières, un peu comme dans l'art ou pour certains grands vins. Ouais. Ça pourrait être un métier pour vous demain?
J'ai une folie du Lego. J'ai une belle collection qu'il faudra que je trie et vende peut-être. J'ai plein de choses dont j'ai pas besoin.
Et qui prend de la valeur, donc.
Et qui prend de la valeur, oui, qui prend de la valeur depuis plusieurs années. Mais non, j'ai pas vocation d'en faire un métier, en tout cas, pas dans cet aspect-là. J'aimerais, si un jour je deviens, par exemple, professeur des écoles, ouais, faire des ateliers avec les enfants pour détourner la brique, pour en faire quelque chose d'encore plus ludique, l'apprentissage par le jeu. C'est...
Parce que vous faites des études pour devenir professeur, c'est ça?
C'est un projet de vie.
Un projet. Ouais. Et vous, Marine?
Du coup, ça serait plus dans le même état d'esprit que Ben lors d'ateliers, d'animations ou autres, plus que dans profiter de la spéculation du Lego. Ça, c'est vraiment pas un...
C'est pas bien.
Non, mais des gens le font, je peux le comprendre, mais moi, je n'aime pas ça. Voilà.
On vous garde encore un petit moment tous les deux pour notre dernière rubrique qui s'appelle « En toute franchise ». Alors, le principe est simple, vous devez répondre avec le plus de sincérité possible, comme vous l'avez fait jusqu'ici. À notre question, est-ce que vous avez tous les deux une manie, un tic, voire un toc avant d'entrer peut-être dans une pièce où vous travaillez sur vos Lego ou même sur les tournages, en effet, de Lego Master? Marine?
Sur les tournages, c'était à chaque fois, il fallait que je retourne voir juste mes petits cheveux, ils sont bien mis, 2 secondes, et puis je redescendais. Mais même si je ne pouvais plus rien faire, c'est le dernier moment, si c'est mal mis, ce n'est pas grave. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais cette obsession d'aller vite fait 2 secondes devant le miroir.
Vous continuez toujours?
Oui.
Benjamin?
Non, le mien est un peu nul, c'est que j'aime beaucoup re-régler ma montre tout le temps. Je me suis empêché de le faire là depuis qu'on a commencé à discuter.
De la tripoter.
Vraiment toujours s'assurer qu'elle est bien là où je veux. Et en fait, pour des soucis de faux montres, enfin éviter les faux raccords, on n'avait pas de montre sur le plateau. Donc j'ai essayé de tricher en mettant des bracelets pour jouer un peu avec. Mais non, à part ces petits aspects-là, non.
Il n'y a pas de doudou?
Non, j'ai pas de doudou.
Il n'y a pas de doudou en Lego, par exemple?
Non, et lui, il doit faire mal sous l'oreiller, à mon avis. Si on se retourne dessus la nuit, je le déconseille.
Nathalie?
Oui, alors chacun, si vous pouviez faire renaître une seule personne célèbre, qui choisiriez-vous? Pas facile.
Ça peut être un chanteur, un acteur.
Tony Stark.
Oui. Voilà, Marine.
Voilà.
Je dirais Marie Curie, parce que j'ai écouté un podcast récemment sur elle et je ne connaissais pas du tout
sa vie.
Qu'elle
vient nous sauver.
Ouais, qu'elle vient nous aider un petit peu.
Dans cette période compliquée, sanitaire.
Sur plein de choses, la chimie, l'énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait mérité d'avoir plus de pays au travail pour vivre un peu plus longtemps et nous aider. Je ne sais pas pourquoi, c'est spontanément.
Tony Stark, donc c'est le super-héros.
C'est Iron Man, c'est l'homme sous l'armure. Ouais.
Donc les deux, entre Marie Curie et Tony
Stark, je pense que les deux dans un
labo,
ce serait le top.
Vous êtes fait pour nous aider à sauver la planète.
Oh, ouais. Non, ce serait le binôme.
Nous avons trouvé le duo qui va nous sauver.
Les vrais Avengers. Ouais.
Qu'est-ce que, Marine, qui vous déplaît dans votre caractère et votre physique? Dans votre caractère?
Dans mon caractère, je pense ne pas oser dire non assez souvent, en fait. De trop dire oui, d'accord, et en fait, après, de me ouais, de me surcharger de travail ou autre, de ne pas oser dire des fois juste non, enfin, pour faire plaisir, de trop facilement dire oui. Voilà.
Et dans votre physique ?
Eh ben, le fait que je ne me tiens pas très droite, que je suis un peu bossue comme ça ici, voilà.
Bon, vous me tenez bien.
Voilà, je fais des efforts.
Benjamin, même question, caractère et physique ?
Caractère, c'est un travail continu, mais j'essaie d'apprendre à mieux gérer mes émotions. Je pense que c'est quelque chose qui m'aidera à être quelqu'un de plus
La télé a dû vous aider, j'imagine, sur les tournages.
Ouais, ça nous met face aussi à nos limites, quand même. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette aventure avec Marine, parce que c'est quelqu'un qui m'a quand même vachement aidé à garder le contrôle.
Temporiser.
Ouais. On parlait des super-héros, c'est Hulk qui a le secret en fait. Pour ne pas être en colère, il faut être en colère tout le temps. Comme ça on n'a pas de débordement. Et physiquement, il y a quelques années, j'aurais pu répondre ma taille, plus récemment mes cheveux, mais en fait, non, j'aimerais bien arrêter de me ronger les ongles, vraiment.
Ah,
je ne sais pas pourquoi
je fais ça. Entre nous, ça fait de
non, 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 du tout.
On vous tape sur les doigts avec une règle à la maison.
Je pense qu'il faudrait que je m'y mette, ça ferait plaisir à mon père.
Ils vendent des produits, vous savez,
répulsifs,
terribles.
Ouais, une espèce de vernis amer, ça ne marche pas du tout, je me suis fait au goût.
Bon.
Quelle est votre plus grande phobie, chacun ?
Moi, je vous ai déjà cité toutes mes phobies, il y en a quand même beaucoup.
Il y avait les araignées.
Les araignées, la peur de l'eau, la peur d'avoir faim et de ne pas avoir à manger, ça c'est horrible, oui.
Et vous avez souffert que vous étiez jeune ?
Non, mais juste j'aime tellement manger et mon humeur, elle dépend vraiment de ce que je mange, de si j'ai mangé aussi. Et ça régule vraiment mon humeur de la journée, donc c'est quelque chose de très important pour moi.
Benjamin.
Zéro originalité, hein. Les araignées, je peux pas du tout. Quoi.
Ah oui.
Vraiment pas.
Vous n'êtes pas prêt pour Fort Boyard.
Non, Fort Boyard, je ne pourrais pas.
Koh-Lanta non plus.
Même Koh-Lanta, hein. Je ne serais pas rassuré. Je leur demanderai un petit tapis, quelque chose.
Quel est l'objet le plus précieux, ce n'est pas forcément le plus cher, hein, que vous possédez tous les deux ?
La machine à coudre de mon arrière-grand-mère. Encore donc une vieille Singer sur table en bois, donc elle est en fonte. Foncé, donc c'était la machine à coudre que mon arrière-grand-mère a achetée pour quand elle était enceinte de ma grand-mère pour lui faire ses vêtements. Ma grand-mère l'a utilisée, ma grand-mère était couturière et c'est également la première machine que j'ai utilisée étant petite pour confectionner les robes des poupées.
Et vous en servez toujours ?
Elle est fonctionnelle, mais je ne m'en sers plus, elle est juste décorative dans mon appartement.
Benjamin ?
La montre de mon grand-père. Encore une fois, une histoire de montre, finalement. Je sais pas pourquoi.
Qui n'est donc pas celle-là.
Qui n'est donc pas celle-ci, non. Qui est une vieille Casio des années 80 que je trouve incroyable. Et il a gardé la boîte d'origine, il a gardé la notice d'instruction. Et j'ai toujours été fasciné par ça, donc je l'ai gardé précieusement.
Et pour finir, peut-être en bonne humeur, Nathalie, une question sur la musique.
Oui, quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment ?
Ouf. Ça varie beaucoup, mais en ce moment, j'ai beaucoup écouté ces derniers jours. C'était la BO de Skyrim, le jeu.
D'accord.
Le jeu vidéo.
Un jeu vidéo, ok.
Voilà.
Ok, musique de film, musique de jeu.
Ouais,
c'est dur. J'ai beaucoup écouté le nouvel album d'Orelsan. C'est pas très original.
Qui vient de sortir donc.
Qui vient de sortir.
Caracol en tête des ventes d'ailleurs.
Ouais, il est vraiment très bien.
C'était la réponse de Pascal Clark, notre invité hier. Aussi.
Ouais, mais je comprends. Ouais. Et je trouve qu'il fédère aussi des gens qui écoutent pas forcément de rap. Et sinon, non, très dur. J'écoute beaucoup de choses, mais on va dire cet album-là. Ouais. Je le conseille pour ceux qui l'auraient pas encore écouté. Il est très très bien.
Merci Marine, merci Benjamin. On croise les doigts ce soir, là, Lego Master, la finale sur M6 en prime time. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Bonne chance. Et demain, le Buzz Télé revient. Nathalie, avec.
Donc, avec Elsa Fayer et Virginie Comte, respectivement présentatrice de 10 couples parfaits sur TFX et candidate de cette émission de télé-réalité.
Une autre forme de jeu.
Oui. Tout à fait.
Merci à vous et très bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.